Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous. Pour ce dernier numéro de l'année, nous avons rencontré des Burgiens et des Burgiennes pour leurs achats de Noël. Certains ont fait le choix du local, on vous donne des idées cadeaux faites sur notre territoire avec notamment le Repère et la boutique Création.
Mais avant ça, nous écouterons le gérant des cinémas burgiens L'Amphi et La Grenette. Les lieux culturels doivent attendre le 7 janvier pour savoir s'ils pourront ou pas rouvrir. Le directeur du théâtre de Bourg et l'administrateur du monastère royal de Brou sont en direct avec nous. Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Bourg, en bref.
La campagne de dépistage Covid commence mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est du 16 au 23 décembre, une première à l'échelle d'une région. L'objectif, tester sur la base du volontariat un maximum de personnes avant Noël et limiter les contaminations en famille. Dans l'Ain, les laboratoires notamment vont pouvoir réaliser ces tests. Il y en a trois à Bourg et d'autres à Perona, Morvel ou encore Vona. Ils seront aussi disponibles dans des lieux grand public comme la gare de Bourg et le centre commercial Carrefour. Cette campagne de Laurent Wauquiez est critiquée. Elle serait peu efficace car les tests permettent seulement de savoir si l'on est contaminé à un instant T. Pour les opposants, le président de la région fait cavalier seul. Des campagnes de tests sont déjà prévues par l'État dans certaines villes comme Saint-Étienne ou Lyon.
Noël et la Saint-Sylvestre en petit comité, c'est ce que préconise le gouvernement.
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi dernier, le 10 décembre, un durcissement des mesures sanitaires. Mardi 15 décembre, le confinement est assoupli et de nouvelles mesures sont mises en place. Les déplacements entre les régions ou les départements sont de nouveau autorisés. Un couvre-feu est instauré de 20h à 6h, sauf pour ceux munis d'une attestation spécifique. Il sera exceptionnellement levé pour la nuit du 24 décembre. Le gouvernement invite les Français à limiter les déplacements familiaux à 6 adultes, les rassemblements familiaux. Un Noël qui s'annonce donc particulier et les Burgiens s'adaptent.
Cette année, vous allez fêter Noël comment? Est-ce que ça va changer dans votre famille?
Ouais, moi ça va changer. On le fait juste en vraiment tout petit comité, juste avec mes parents et ma sœur. Et voilà.
Et d'habitude, c'était plus?
Oui, d'habitude, les oncles, les tantes, les grands-parents. Mais là, cette année, ce sera restreint.
J'ai mes enfants qui sont assez loin. Ils vont venir pour Noël. Donc on va faire un petit truc entre nous vite fait. On va éviter comme on est assez nombreux, donc voilà. Les parents vont être d'un côté, puis les enfants de l'autre.
On ne sera pas nombreux, donc il y aura nos enfants et c'est tout.
On s'est tous partagés en comité restreint. Les 25 en 5. Voilà. 5 groupes. C'est un peu morose. Hein. Voilà. Je suis pas du tout dans l'ambiance.
Ça vous fait quoi d'être en petit comité?
Eh bien, c'est la première fois qu'on le fait, mais je pense que ça sera très bien. Parce que justement, c'est autre chose. C'est autre chose, il faut jouer le jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si les enfants ne pouvaient pas venir, ça m'ennuierait. Mais autrement, qu'on se limite à un nombre... les familles qui sont plus nombreuses, je comprends qu'ils aient envie de se retrouver, c'est normal. Mais qu'on limite, oui, bien sûr.
Un peu d'ambiance de Noël dans les rues de Bourg-en-Bresse.
Pas de marché de Noël, ni de patinoire, mais une grande roue. Elle sera sur l'esplanade de la Comédie entre le 16 décembre et le 17 janvier. Vous pourrez être jusqu'à 6 personnes dans une cabine. Des tickets seront offerts aux enfants des écoles et des centres de loisirs de la ville. Il y aura aussi un petit train devant l'hôtel de ville et les balades en traîneau sont maintenues avec un nouveau parcours. De la musique festive est diffusée dans les rues piétonnes.
Pas de glorieuse de Bresse, mais des marchés.
Faute de concours, les chapons et autres poulardes seront vendus dans des marchés spécialement organisés pour leur vente. Ce sera mardi 15 décembre à Morvel, le 18 décembre à Bourg-en-Bresse et aussi le 19 à Louan et le 20 à Pont-de-Vaux. Pour celui de Bourg-en-Bresse, ce vendredi, ce sera de 14h à 19h. Et en plus des volailles fines, vous pourrez acheter chez des producteurs locaux. Plusieurs chefs du territoire seront aussi sur place pour vous montrer comment cuisiner votre volaille. Ils feront aussi des plats à emporter.
La tannerie fait son concert, mais en visio.
Le groupe nantais Orange Blossom va se produire à la tannerie le 18 décembre, mais le public ne sera pas sur place. Il pourra néanmoins assister au concert par internet. Les places sont à 8 euros, dont 1 euro sera versé à une association humanitaire. Rendez-vous à 21h le 18 décembre pour découvrir le nouvel album d'Orange Blossom, un groupe électro avec des influences de musique du monde. Il s'agit d'un concert unique, pas de rediffusion. Toutes les infos sur le site de la tannerie.
Toujours avec la scène musicale locale, la cave à musique à Mâcon innove aussi.
Des showcases d'une demi-heure sont organisés pour découvrir les albums de trois artistes, Gabriel, Hello Papillon ou encore Les Michelines. Le principe est simple, vous achetez l'album d'un des artistes et vous choisissez un horaire pour venir le récupérer le samedi 19 décembre. Une fois à la cave à musique, vous pouvez profiter d'un petit concert avec votre famille ou vos amis, jusqu'à 5 personnes. Et pour réserver, c'est sur cavazic.org.
Radio B. Noël, c'est dans moins de 15 jours. La course aux cadeaux continue, Inès.
Je suis partie à la rencontre des Burgiens et des Burgiennes dans les rues piétonnes du centre-ville. Comment vous allez faire vos achats de Noël cette année ?
Pas sur Internet parce que j'ai pas Internet. Donc je fais les boutiques parce que j'aime trop ça.
Donc là, vous avez commencé déjà ?
Oui, j'ai déjà commencé. Ouais. Puis je continue aujourd'hui parce que je suis en vacances cette semaine. J'ai que des grands-enfants et grands-neveux, donc c'est des chèques. Hein. C'est ce qu'ils apprécient le mieux. Et vraiment, pour les autres, bon, c'est des petits cadeaux. Hein. C'est juste le geste qui compte. On ne fait pas des cadeaux énormes, non.
Et est-ce que vous essayez de privilégier le local ou pas forcément ?
Ben, si je trouve dans mes prix, oui. Mais pas forcément, non.
Comment vous faites vos achats de Noël cette année ?
Plus difficilement que d'habitude, parce qu'on ne peut déjà pas toucher la marchandise.
Sinon, toujours en ville ?
Oh, j'essaye, oui, de faire marcher le petit commerce. Étant ancienne commerçante, je me rends compte que ça ne doit pas être tout rose tous les jours.
Je fais des virements sur les comptes de mes filles, directement. Voilà, comme ça, s'achèteront ce qu'elles voudront quand il y aura moins de monde dans les magasins.
Dans les magasins, pour soutenir un petit peu les commerçants. Plutôt dans les petites boutiques que dans les grandes surfaces.
Centre oui. commercial, oui. même dans non. des centres commerciaux.
Mais pas forcément chez des artisans ou...
Non.
C'est ma fille qui s'en occupe pour mes deux petites filles qui sont chez elle. Et en principe, les deux grands chez mon fils, on leur donne en argent.
Et donc vous achetez plutôt local ? Comment ça se passe ?
On achète local, oui. Oui. On achète local, sauf là, je viens pour un sac à main pour ma femme, donc voilà. La bouffe, tout ça, on va commander chez un traiteur à côté de chez nous.
Zéro internet, local exclusivement. Ah ouais, à tout point de vue, que ce soit pour les cadeaux, pour l'alimentation, on fait tout local. Dans la mesure du possible, bien sûr, hein, mais non, zéro internet.
Mais vraiment une librairie et pas Amazon ou Fnac sur internet, donc des choses comme ça.
Et en plus, quand on va dans une épicerie, on regarde l'origine, etc. Voilà, on est très attentif.
Je suis aussi allée dans deux boutiques qui mettent en avant les artisans locaux, Création et Le Repère. On commence avec Laetitia du Repère, une association qui fait bar et boutique.
On n'est ouvert que sur la partie boutique de Création. Le bar et puis les ateliers ne peuvent pas être ouverts encore. La première semaine a été assez calme et puis maintenant, on commence à avoir du monde. Donc ce matin, on a déjà eu deux personnes donc, qui sont venues dans la boutique. Le fait que la boutique puisse être ouverte, ça change tout. Que des commandes en ligne, je pense que c'était un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que vous sentez qu'il y a un petit engouement quand même pour le local cette année, avec le Covid peut-être ?
J'ai l'impression que oui, le fait d'avoir eu des confinements, déjà avec le premier puis le second confinement, les personnes ont essayé de consommer un peu plus local, que ça soit au niveau culinaire ou d'essayer de faire vivre un peu les artisans locaux. Donc oui, j'ai l'impression que c'est plutôt positif de ce côté-là.
Qu'est-ce qui a un peu de succès là, au début de cette réouverture ?
On a des bénévoles qui ont créé des petites pochettes cadeaux et puis tout est parti d'un coup. Donc ça, c'était vraiment la bonne surprise. On a des tabliers enfants qui partent très bien. Donc ça, ce sont des créations, donc tremplin et par les bénévoles du Repère. Et puis là, ce matin, on a reçu aussi des créations de Lily Mello qui fait des petites bouillottes, des petites peluches. Et puis, il faut venir voir.
On peut venir voir quand ?
Alors, l'idéal, c'est d'appeler avant, puisque pour l'instant, donc, je suis la seule sur place. Donc, je travaille normalement du mercredi au samedi, mais parfois le local est loué, donc je ne suis pas toujours là. L'événement le plus important, ce sera notre marché de Noël les 19 et 20 décembre. Et là, on sera ouvert toute la journée de 10h à 18h, donc le samedi et le dimanche 19 et 20 décembre.
La boutique Création, ça fait un an qu'on est dans cette rue et on était en fait anciennement rue Thomas Ribou. Il y a Virginie Perret qui est spécialisée dans le textile, Nadège Réverdi qui elle travaille le cuir de carpe et le cuir, Nadine elle est fileuse de verre, Nadine Josserand et puis moi je suis artiste plasticienne, voilà, je m'appelle Geneviève Parino. On est toutes les quatre de la région, c'est nos propres créations qui sont dans la boutique et puis on se relaie pour tenir la boutique dans les jours de la semaine.
Depuis que ça a rouvert, votre magasin, là, avec ce deuxième confinement, est-ce que les clients sont au rendez-vous ?
Tout doucement. On va dire que je pense que les gens continuent à prendre leur marque, à faire du repérage, en fait, comme l'année dernière. On pensait que ça allait être beaucoup plus... Il allait avoir une activité un peu plus importante, mais finalement, pas plus que l'année dernière. Enfin, voilà, les gens prennent le temps.
Donc vous faites tout ça où ?
Je fais tout ça sur Haute-Cour-Romanèche, dans mon atelier. Voilà, qui s'appelle Arpentine. Donc, je fais des tableaux. Voilà, donc souvent, c'est inspiré de mes voyages. Je fais de la céramique, donc du coup, je me suis mis aussi à faire un peu des bijoux. Céramique, tissage, je fais aussi du tissage. Là, c'est mes dernières petites créations. Vu les temps actuels, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de créer des petits galets où on puisse justement mettre quelques gouttes d'huile essentielle, voilà. Des bandeaux, donc dans le principe bandeau avec tissage ou laine cardée. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais.
Et Inès, vous nous avez fait une sélection d'autres cadeaux locaux.
On commence par les enfants, un peu de lecture avec une autrice de Bourg-en-Bresse. Cécile Alix écrit des livres jeunesse. Elle propose entre autres une série de livres pour les pré-ados. Ça s'appelle La Street. Elle raconte avec humour le quotidien de trois jeunes. Pour les enfants autour de 6 ans, on peut se tourner vers une illustratrice de Bourg, Anne-Isabelle Ginisti. Elle a notamment dessiné Le secret de l'enfant phénix, un conte poétique.
Et il y a aussi la possibilité d'offrir des jouets recyclés.
Pour leur donner une seconde vie, une entreprise basée à Trévoux reconditionne des jouets et les revend à bas prix. C'est sur leur site abracadabric.fr.
Pour les plus grands maintenant, une œuvre d'art personnalisée et accessible.
Alice Summersbond, une jeune dessinatrice burgienne, propose de dessiner à partir d'une photographie d'un paysage, une vue, une façade. Elle réalise ses œuvres à la gouache. Ça coûte entre 50 et 100 euros selon les formats. Il faut compter entre une semaine et 15 jours pour recevoir le dessin. Plus d'informations sur son Facebook Alice Summersbond.
Des sacs et porte-monnaie en cuir faits localement.
C'est chez Créa Maya, pour hommes ou pour femmes. Vous pouvez acheter cette maroquinerie fait main entre 10 euros et 150 euros selon les pièces. Pour les produits de beauté, Lily de Bresse propose des savons artisanaux pour hommes et pour femmes, des baumes à lèvres ou encore des savons de rasage.
Notre département a de quoi satisfaire les plus gourmands.
À offrir ou pour vos repas de fête, Sardélis, la boutique dans le lycée des Sardières, propose du foie gras, des terrines et des volailles notamment. Pour un cadeau, plusieurs coffrets sont disponibles, entre 20 et 60 euros selon le budget. Tout est réalisé sur place par les élèves.
Une idée originale aussi, des cours de cuisine par des chefs locaux.
C'est la Chambre des métiers et de l'artisanat qui lance ses activités. Un atelier macaron est organisé le samedi 30 janvier avec le pâtissier Bouvard. C'est 70 euros par participant et chacun repart avec ses macarons. Et pour vos repas de fête, des chefs locaux proposent des menus à emporter. Vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table. C'est le cas du restaurant Scratch à Bourg notamment, l'auberge Lantaise à Lens ou encore le Voyage d'essence à Cuisia. Renseignez-vous auprès de vos restaurateurs locaux.
L'écomusée Maison Pays de Bresse propose aussi des stages.
Et cette fois pour apprendre les gestes ancestraux. En janvier et février, ils proposent de découvrir par exemple la vannerie, des stages à offrir pour les fêtes sous forme de bons cadeaux.
Pour terminer, une autre idée, mettre du spectacle sous le sapin.
Pour découvrir la programmation du théâtre de Bourg-en-Bresse, des bons cadeaux à acheter à la billetterie du théâtre ou à réserver et régler par téléphone. Ils sont valables jusqu'à fin 2021.
L'invité de Radio B.
Le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape. Mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision, les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés 3 semaines de plus.
Je suis Christophe Bernard, le gérant du multiplex Amphi et du cinéma La Grenette sur Bourg-en-Bresse.
Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vos établissements n'ouvriraient pas avant 2021 ?
Très décevant, parce qu'on comptait vraiment sur les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, pour déjà donner un peu de choix aux gens de sortir et de se faire plaisir, parce que le cinéma avant tout est un plaisir, hein, c'est une sortie familiale, donc familiale avec aussi quand même la distanciation, il n'y a pas de souci, de toute façon il n'y en a jamais eu au cinéma, on a toujours suivi les protocoles. Donc très décevant parce qu'on ne peut plus ouvrir au moment des périodes de fête où on peut à peu près équilibrer notre activité, quoi. Parce que maintenant c'est réouverture peut-être le 7 janvier, mais hors vacances scolaires, c'est-à-dire avec beaucoup moins de monde dans les salles. Et puis le protocole sanitaire va être durci, le couvre-feu à 20h qui ne nous arrange pas. Déjà le 21h ne nous arrangeait pas, mais là 20h c'est plus possible. Donc il n'y a plus aucune séance en fin de journée. Ça nous ferait démarrer la dernière autour des 17h pendant que les gens travaillent. Donc en dehors du week-end qui est plombé par le couvre-feu, on ne peut pas faire recette, c'est pas possible. Donc si c'est pour une réouverture des cinémas à perte, c'est encore la trésorerie qui va payer les pots cassés, quoi.
Et là, si jamais ils avaient dit oui pour le 15, vous étiez prêts, vous avez des films ?
On avait tout préparé, on avait déjà bossé sur la programmation. Oui, on avait à 80%, on avait déjà nos films hein, de prévus. On était en train de faire les horaires, on a attendu l'annonce du Premier ministre. Et voilà. Mais on s'y attendait un peu vu les mauvais chiffres qu'ils annonçaient, quoi.
Ça vous fait quoi de voir ces bâtiments vides depuis tout ce temps ?
On commence à s'habituer hein, depuis le mois de mars. Donc on met tout de côté, on dépoussière, on range. Le seul souci, ce sont nos stocks, parce qu'à chaque fois, on avait du stock pour les vacances. À chaque fois, on a fermé juste avant les vacances ou pendant les vacances. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas manquer pendant les vacances de peu de stock qu'on a à vendre. Donc je me retrouve encore avec du stock qui va être périmé. Au premier confinement, j'ai perdu à peu près 8 000 € de stock qu'on a fait sous forme de donation avant que ça soit vraiment périmé. Là, on va regarder à nouveau pour éventuellement faire des dons aux associations, hôpitaux, pompiers. Enfin, on essaye de faire le tour pour essayer de faire des heureux avant que la cam soit foutue.
Et financièrement, ici, à l'Amphi, à La Grenette, comment vous vous en sortez ?
Ben, financièrement, on tape dans la trésorerie qui font à vue d'œil. Pour l'instant, on a mangé 2/3 de notre trésorerie depuis le premier confinement. Mais on minimise tous les frais annexes, hein, tout ce qui est prêt est décalé, le chauffage est coupé, hein, on est au minimum. On fait tourner de temps en temps les machines pour pas perdre les mémoires. Mais on minimise vraiment nos charges un maximum. Donc on sait que l'année 2021 va être très dure. De toute façon, il nous faudra plusieurs années pour revenir à un système normal.
Et donc là, l'État a promis des aides. Est-ce que vous les avez vues, ces aides ?
On n'a encore pas touché les aides de l'État. On a eu une petite aide du CNC. Tout ce qui est pour l'instant région, État, on n'en a pas vu. On n'a pas vu d'aide encore. Toutes les demandes ont été faites. Maintenant, on attend le retour. Y compris le PGE, en cas où. PGE, c'est le prêt garanti par l'État, qui est un certain montant du chiffre d'affaires, où la première année, vous ne payez rien. Hein. Ça se déclenche un an après qu'on ait pris l'argent avec le taux en vigueur. Quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est entre guillemets, c'est une enveloppe qu'on garde de côté quand on sera assez qu'au niveau trésor. On piochera dedans, mais au moment de relancer la machine, ça sera une charge supplémentaire.
Et donc, ça va changer quoi, une réouverture en 2021 dans votre organisation ?
On va y aller modérément, parce que ouverture 2021, mais on ne sait encore pas pour combien de temps. Hein, s'il y a une troisième vague, une quatrième vague, voire plus, au bout d'un moment, de faire du stop and go, ça coulera de toute façon les entreprises, il ne faut pas rêver. Hein, surtout dans un monde comme nous, où il ne suffit pas de racheter, d'ouvrir et de vendre. Nous, il y a toute une chaîne en amont à remettre en route, et c'est très très dur. Quoi. Très très dur, parce que c'est une chaîne aussi mondiale. Quoi. Pour l'instant, tous les cinémas quasiment européens sont fermés. Pour relancer tout le monde, en sachant que quand on sort un film, vaut mieux le sortir dans plusieurs pays d'un coup que de sortir que dans un ou deux pays, quoi. Parce qu'une fois qu'il est sur les, écrans, malheureusement, le piratage, le film, après, il est foutu. Il est foutu. Mais surtout, c'est ouvrir quand même au plus vite, avec une sûreté derrière de ne pas refermer, c'est pour enrayer un petit peu tout ce qui peut aller sur les plateformes. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sortent leur épingle du jeu, ce sont les plateformes où les films sortent directement sur plateforme, du style Disney et d'autres plateformes maintenant qui se mettent en place.
Christophe Bernard, le gérant des cinémas burgiens L'Amphi et La Grenette. Des cinémas toujours fermés, comme les théâtres et les musées. En studio, deux invités. Vincent Rochelecca, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Pierre-Gilles Giraud, bonsoir.
Bonsoir Audrey.
Vous êtes l'administrateur du monastère royal de Broue. Vincent Rochelecca, Pierre-Gilles Giraud, quelle a été votre réaction quand vous avez su que votre établissement n'ouvrirait pas avant 2021 ? Vincent Rochelecca ?
On est passé par beaucoup de sentiments. Un sentiment de dépit, un sentiment de colère, un sentiment de fatalisme, un sentiment... On est passé par beaucoup de sentiments et... Il s'est passé 5 jours depuis et je continue de naviguer entre ces différents sentiments.
Pierre-Gilles Giraud ?
Un petit peu la même chose, hein. Une déception, une forme de colère, d'incompréhension aussi sur la nature de la mesure s'adressant à des établissements qui ont tous fait des efforts importants de respect des normes sanitaires les plus strictes.
Vous étiez prêt pour la réouverture, donc demain mardi, le 15 décembre, Vincent Rochelecca ?
On était même plus que prêt, puisqu'on avait imaginé... on a toujours eu dans un coin de la tête cette condition de passer sous les moins de 5000 cas par jour et les moins de 3000 hospitalisations. Néanmoins, on était plus que prêt, puisqu'on avait rajouté des activités, puisque normalement, on arrêtait le 12 décembre, et quand fin octobre, début novembre, on nous a dit qu'il y avait une possible réouverture au 15 décembre, on a rajouté plusieurs actions entre le 15 et le 22 décembre. Donc on était complètement prêts puisqu'on avait commencé à communiquer, à vendre des places. Mais bon, on va défaire ce qu'on avait fait en un temps court.
Pierre-Gilles Giraud, du côté du monastère royal de Broue.
Au monastère, alors nous, on n'a pas reprogrammé des événements annulés, mais on maintenait bien sûr toute notre programmation, notamment autour de l'exposition des monuments de la région en Lego, contes et histoires, un certain nombre d'ateliers familiaux pour la période de Noël et des vacances de Noël, qui sont toujours une période d'activité au monastère de Broue pour un public familial, justement.
Donc cette décision du gouvernement, j'ai entendu un directeur de théâtre lyonnais qui disait que c'était injuste puisque les grands magasins accueillent du public. Votre avis, Vincent Rochelecca ?
C'est vrai qu'on est très partagé. Là, en ce moment, le monde culturel s'agite depuis ces annonces de jeudi soir avec plusieurs actions, que ce soit des manifestations prévues cette semaine, que ce soit le dépôt d'un recours en référé liberté, que ce soit... plusieurs actions en justice ou de mobilisation, et c'est vrai que on est partagé entre une forme de patience ou de sagesse vu le contexte sanitaire, hein, quand on apprend encore ce matin que l'Allemagne ferme ses écoles, et en même temps on est aussi tiraillé dans ces questions d'équité, inéquité par rapport aux lieux de culte, par rapport aux supermarchés, par rapport aux transports, où on se dit que soit les protocoles sont les mêmes, soit même plus compliqués. Donc on est très très partagé de voir les uns ouverts et les autres fermés, ce qui génère de l'incompréhension, pour reprendre le terme de Pierre-Gilles tout à l'heure.
Pierre-Gilles Giraud, même constat pour vous ?
Évidemment, constat partagé. Il y a aussi des mouvements de la part des associations professionnelles de conservateurs, de responsables de musées, d'associations professionnelles. Donc il y a cette tentative de recours. On a un peu le sentiment que c'est un baroud d'honneur. La même préoccupation, naturellement, de la santé de tous nos concitoyens. Mais on entend dire dans certaines tribunes que finalement les pratiques culturelles resteraient l'apanage d'une petite partie de la population. Alors si c'est le cas, pourquoi ça n'est pas ces mouvements-là qui feront le plus de circulation de flux ? Et encore une fois, l'ensemble des mesures sanitaires avait été prévu. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que le Premier ministre a mis en avant des études qu'on aimerait connaître déjà pour justifier la fermeture des restaurants. Et quand il s'agit des lieux culturels, on n'invoque même pas ces études. Et je serais vraiment très curieux de savoir s'il en existe et s'il y a des cas avérés dans les établissements comme les autres.
Ce mardi donc 15 décembre, la CGT Spectacle appelle à manifester dans toute la France pour soutenir le monde du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel. À Lyon, le rendez-vous est donné à 15h au Grenier d'Abondance, 6 quai Saint-Vincent. C'est là où est installée la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Messieurs, avez-vous prévu de participer à ces mobilisations, Vincent Rochelecker?
Alors, j'ai la délégation régionale d'un important syndicat du spectacle vivant, donc évidemment, on relaie ces informations. On appelle à la mobilisation. Après, moi, très personnellement, je ne sais pas, parce que ça a été communiqué très récemment depuis 48 heures et que j'ai une journée assez chargée demain avec l'équipe, puisqu'il ne faut pas oublier les équipes dans ces moments-là qui sont usées par ce que certains appellent le stop and go, mais en tout cas avec une forme de lassitude. Donc on va relayer, je ne sais pas si moi-même j'en serai. Après, pour vous donner rapidement mon sentiment sur la démarche, effectivement, je ne sais pas si ce sera un baroud d'honneur. En tout cas, on aura au moins essayé de faire entendre notre voix, parce que plus largement qu'une fermeture un peu subite et soudaine qui nous est donnée la semaine dernière, c'est le recul de la culture dans le niveau des priorités qu'on sent poindre. Et puis, je ne sais pas si ce sera une autre question, mais je ne vous cache pas que moi, mon agacement, il est aussi complètement tourné vers cette clause de revoyure du 7 janvier qui ne nous donne pas un cap très clair. Et au-delà de la fermeture soudaine qu'on vient de vivre pour les 3 prochaines semaines, je suis assez inquiet de nos mois de janvier dans les lieux culturels, vu la teneur des informations dont nous disposons actuellement.
Pierre-Gilles Giraud, est-ce que vous allez vous mobiliser dans ces rendez-vous qui sont organisés ?
Alors encore une fois, on le fait à travers des groupements professionnels. Je suis un peu dans le même cas que Vincent pour la journée de demain. Faut savoir que même pendant ces temps de fermeture, en effet, les équipes restent sur le pont pour partie en présentiel, pour partie en télétravail. C'est aussi l'occasion pour nous de réaliser un certain nombre de tâches de fond et qui demandent un accompagnement des équipes sur le site. D'autant plus que, comme le disait Vincent, le moral des troupes est quand même durement affecté par ces arrêts à répétition. Pour le monastère de Brou, c'est quand même la première fois que le monument a été fermé depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui interpelle un petit peu sur l'ampleur. Alors encore une fois, je pense qu'on était tous dans un état de sidération au moment du premier confinement. On a quand même le sentiment que les outils d'analyse d'aide à la prise de la décision politique, les concertations ne sont pas du tout à la hauteur et n'ont pas encore tiré les enseignements même de la première séquence.
On va revenir donc sur l'aspect humain. Vincent Rochelecker, vous en avez parlé, vous aussi, Pierre-Gilles Giraud. Vincent Rochelecker, comment vont vos équipes ?
Ce serait mentir que de dire que tout le monde est dans une forme optimale. Le moral est soumis à rude épreuve. Après, on essaye toujours de relativiser parce qu'il y a des professions encore plus durement attaquées. Qu'elle soit en contact direct avec les malades ou qu'elle soit dans une crise économique bien plus avérée. Nous, on essaye de tenir en se disant que demain, on repartira. Ce qui est épuisant, c'est évidemment de faire et défaire, mais plus largement, ce qui se loge de manière plus profonde, c'est que ce qui nous fait nous lever le matin, c'est la rencontre entre l'œuvre et le public et qu'on est coupé des deux, ou presque, puisque sur ce second confinement, on peut faire répéter quelques équipes artistiques et puis maintenir quelques ateliers dans les écoles, mais on est quand même globalement coupé de notre objet de travail, de notre outil de travail et de ce pourquoi ces professionnels de la culture embrassent carrière-là longue et parfois pas des plus simples, puisque il y a toute une série de problématiques d'amplitude horaire, d'horaire décalé, d'exposition, voilà, un certain nombre de contraintes. Et donc du coup, voilà, le fondement même de ces métiers-là est remis en cause, qui, je crois, fait vaciller un certain nombre d'entre nous. Et je crains très fort que tout ça en use définitivement certains. Et j'espère qu'il n'y aura pas de fuite de cerveau et de compétences. J'ai en tête quelques discussions avec des artistes récemment où certains se disent qu'ils vont préférer aller embrasser d'autres carrières, et ça m'inquiète.
Pierre-Gilles Giraud.
Ah bah, le moral, moral des troupes, il est des équipes, il est évidemment incertain. Il est éprouvé encore une fois par ces fermetures à répétition. Alors nous, on a la chance que les œuvres, elles ne bougent pas, que ça soit dans le monument ou dans le musée. Donc les œuvres sont toujours là, mais les œuvres privées de public, c'est quand même notre mission essentielle de les offrir, de les mettre à la disposition, de les partager avec le public. Alors, comme tous, on essaye de trouver des formules de substitution. Il y a en effet beaucoup d'interventions hors les murs, dans les classes, ce qui d'ailleurs m'interpelle. On ne peut pas accueillir une classe dans le monument qui fait 6000 mètres carrés, et on envoie des médiateurs intervenir dans une salle de classe qui font peut-être 60 ou 80 mètres carrés maximum. Et puis on s'efforce aussi de maintenir une présence et un lien avec notre public en développant par exemple la présence sur les réseaux sociaux, en essayant de trouver des nouveaux formats. Chaque lundi, on publie un coup de cœur d'un membre de l'équipe. C'est aussi une façon de faire découvrir les différents métiers qui sont à l'œuvre dans un monument musée comme le monastère royal de Broue, ou bien des contes qui sont autour d'œuvres qui sont créées et mis en ligne tous les vendredis, en plus de nos publications habituelles. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même une forme d'ersatz, même si c'est appelé aussi à renouveler nos pratiques à terme, puisque c'est des formes qui ont été créées, qui seront pérennisées, et il y aura un équilibre à trouver entre les interventions, l'accueil du public, les interventions hors les murs et ce qu'il y a sur le numérique. Mais dans un musée, on est quand même très attaché au contact du public avec les œuvres originales.
Et c'est ce que vous avez fait aussi, le théâtre de Bourg-en-Bresse, Vincent Rochelecker, de maintenir le lien justement avec les artistes en publiant des vidéos sur votre page Facebook.
Oui, je vois que vous êtes curieuse et bien informée, Audrey. Effectivement, on a imaginé un certain nombre de nouvelles communications, comme celle que vous venez de citer, où on se disait qu'on faisait coup double en montrant un espace du théâtre avec une anecdote d'artiste qu'on aime bien. Les artistes sont très invisibilisés par la situation actuelle, et puis on s'est dit pourquoi ne pas rendre compte un petit peu de nos arrière-boutiques, des métiers. Voilà, on joue d'astuces depuis 6 semaines pour continuer de tenir en haleine les spectateurs qui nous sont fidèles et nous envoient beaucoup de témoignages. Tout ça a quand même une limite, notamment je pense à notre public qui est peut-être moins connecté. Tout cela a également une limite, je crois que j'espère qu'une partie de la jeunesse, ou pas que, n'a pas définitivement basculé vers Netflix et saura aussi retrouver un usage de pratiques culturelles un petit peu particulier, et puis sans être trop vieux jeu. C'est vrai que, comme vient de le dire Pierre-Gilles, on est très attaché à un retour en salle, à des moments collectifs de spectacles vivants avec des humains en direct. Et donc oui, on suit le développement des pratiques culturelles vers le numérique. On essaye de remplir un petit peu le créneau libre habituellement. Mais qu'est-ce qu'on a hâte de retrouver des gens et des artistes en face.
Pour terminer, la fin de l'année, c'est dans quelques semaines. Quels seraient vos vœux pour 2021, Pierre-Gilles Giraud?
On aimerait bien que ce soit une année moins chaotique. Comme l'évoquait Vincent tout à l'heure, on se demande aussi quand va commencer véritablement cette année 2021. Le 7 janvier, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, l'a rappelé, ça n'est qu'une clause de revoyure. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à imaginer que le pic épidémique sera retombé juste après les fêtes. Est-ce qu'on va être aligné sur la date des restaurateurs du 20 janvier, si tant est qu'elle-même soit respectée? Cette imprévisibilité est effectivement compliquée à gérer, à la fois pour les responsables, pour les équipes, et puis pour le public qui nous manifeste également des marques de sympathie et voire d'impatience.
Donc là, ça veut dire que les prochaines semaines, vous allez préparer avec cette hypothétique date. Comment on se prépare quand on n'a pas vraiment de date, en fait, de réouverture?
Ben c'est bien le sujet. Ça conduit à faire, à redéfaire, à redécaler. L'exposition autour de Suzanne Valadon était des artistes contemporaines, initialement prévue au printemps 2020, a été décalée d'abord à l'été, puis ensuite au mois de mars prochain. Elle est actuellement présentée, ou plutôt accueilli au Musée des Beaux-Arts de Limoges, qui est le musée partenaire pour son organisation, et elle n'a toujours pas reçu un seul visiteur. Donc c'est vraiment une période où il est extrêmement compliqué de programmer, puisque précisément, on ne sait à peu près rien.
Vincent Rochelecka, vos voeux pour 2021 ?
Je pense qu'on peut imaginer des voeux de santé, enfin, ça je crois que chacun en prendra son parti. Non, pour mon secteur, pour le secteur culturel, peut-être deux vœux. Un vœu pour ceux qui l'organisent et un vœu pour ceux qui l'apprécient. Pour ceux qui l'organisent, j'ai senti dans cette année 2020 que la manière dont habituellement on organisait tout ça a volé en éclats et qu'on a imaginé d'autres possibilités d'organiser les calendriers, d'organiser le soutien aux artistes, d'organiser la rencontre. Et donc je souhaite que tout ça ne revienne pas complètement en arrière quand la crise sera derrière nous ou un peu mieux maîtrisée. Donc je souhaite que la culture prenne vraiment l'ambition de ce qu'elle s'est promise à elle-même. Et puis le second vœu, c'est peut-être en direction des usagers. Il va falloir beaucoup d'ambassadeurs, de motivation pour aller peut-être pas reconquérir nos plus fidèles. Ils sont là, ils nous le témoignent, ils attendent que ça, mais les plus occasionnels. Je suis assez inquiet sur ce sujet-là, sur la question des usagers ou des spectateurs aux plus occasionnels qui ont un petit peu disparu de nos radars depuis septembre. Et j'espère qu'on sera quelques-uns à aller leur redire que c'est aussi pour eux.
Et je le rappelle, donc le théâtre qui propose des bons cadeaux pour les fêtes de fin d'année, pour découvrir les spectacles à venir au théâtre de Bourg-en-Bresse. Donc on l'a dit, vous pouvez trouver à la billetterie du théâtre aussi par téléphone. Vincent Rochelecka, Pierre-Gilles Giraud, merci.
Merci Audrey.
Merci.
Vincent Rochelecka, vous êtes le directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse et Pierre-Gilles Giraud, l'administrateur du monastère royal de Broue. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette année. Merci pour votre écoute, on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, profitez bien des fêtes de fin d'année tout en restant prudent. On vous donne rendez-vous le lundi 4 janvier pour un numéro spécial rétrospective 2020. À très vite, belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.